Nous continuons ce matin notre petite série dans l'épître aux Galates. Donc nous avons fini le chapitre 1, nous abordons le chapitre 2 des versets 1 à 10. Je vais lire le texte. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai, je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir, ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas, Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions, nous, vers les païens et eux, vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Je vous rappelle un peu le contexte, donc du texte de notre étude d'aujourd'hui. On avait vu que Paul établit d'une manière irréfutable, premièrement, que son évangile n'est pas d'origine humaine, mais divine, et deuxièmement, surtout, que sa conversion également n'est pas d'origine humaine, mais divine. Et Paul ne se contente pas de l'affirmer, mais il le prouve. Non pas avec des arguments théologiques, mais par des faits constatables et vérifiables. Quels sont ces faits? En résumé, les principaux, c'était premièrement le fait qu'il n'a reçu aucune formation ni aucun enseignement de la part des apôtres ou de qui que ce soit. Et pourtant, il a prêché l'évangile pendant des années. 14 ans ou peut-être même plus. Or, il se trouve que cet évangile s'avère être exactement le même que celui des apôtres, comme on va le voir aujourd'hui. Deuxième fait, sa conversion et le changement humainement inexplicable qui s'en est suivi. Saul de Tarse, c'était l'ancien nom de Paul, est devenu quelqu'un de complètement autre. De tout autre, il est devenu l'apôtre Paul. Cette conversion donc prouve qu'il a vraiment rencontré Christ ressuscité, comme il le dit, et elle atteste aussi que l'évangile est une bonne nouvelle vraiment efficace pour changer radicalement la vie de quiconque croit et place sa confiance en Christ. Chacun de nous, donc, doit être conscient de ces choses. L'un des traits les plus notables de la conversion de Paul a été la découverte extraordinaire de ce qu'est vraiment, pour utiliser l'expression du texte d'aujourd'hui, ce qu'est la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Au verset 4. Il a fait cette découverte extraordinaire parce que lui, plus que quiconque d'autre, était vraiment esclave du légalisme pharisien. et le pratiquer activement. Un autre fait que Paul met en avant aussi et qui prouve ces choses, et un fait qui est lié directement à sa conversion, c'est que les chrétiens de Judée eux-mêmes rendent gloire à Dieu pour sa conversion, pour son apostolat et pour son évangile. On voit ça dans Galates 1, 24. C'est un peu comme si Paul disait aux faux docteurs Galates, parce qu'en écrivant aux églises Galates, il vise aussi les faux docteurs qui essaient de les endoctriner. Donc c'est un peu comme s'il disait aux faux docteurs, tout le monde en Judée rend gloire à Dieu pour mon apostolat et pour mon évangile, et vous, comment se fait-il que vous ne soyez pas encore au courant? Donc le texte de ce matin gravite autour de deux notions centrales. Au verset 4, il est question de la liberté que nous avons en Jésus-Christ, et au verset 5, de la vérité de l'Évangile. Et nous parlerons aussi de la liberté et de l'indépendance dont Paul jouit dans sa manière de faire. Car en tant que chrétien, l'Évangile nous rend libres aussi dans ce sens, et pas seulement libres vis-à-vis des lois rituelles et cérémonielles de l'Ancien Testament. Un premier point, la liberté que nous avons en Jésus-Christ vis-à-vis des lois rituelles et cérémonielles, justement. C'est un peu le centre de gravité de l'Épître aux Galates. Il est clair que Paul remporte une victoire écrasante lors de sa démarche à Jérusalem. Le joug de la loi est officiellement levé pour tous les chrétiens malgré les pressions exercées par les faux frères. C'est ce que nous allons voir. Donc la vérité de l'Évangile et la liberté que nous avons en Jésus-Christ l'ont emporté sur le légalisme. Et on le voit plus particulièrement lors du premier concile de Jérusalem, qui a lieu dans Acte 15, mais nous allons reparler de ça. Si la démarche de Paul, donc avec les apôtres à Jérusalem, avait échoué, le christianisme aurait été anéanti dès le départ, et à la place, nous n'aurions eu que des sectes plus ou moins judaïques. Pourquoi? Parce que la caractéristique du christianisme par rapport au judaïsme, c'est justement le salut gratuit, le salut par grâce, sans qu'on ait rien à faire. Et donc pour nous chrétiens, il ne devrait plus y avoir aucune notion, comme dans le judaïsme, de faire quelque chose pour mériter d'être sauvé. Christ a accompli toute la loi et il met son obéissance parfaite sur notre compte. Et la circoncision du cœur est maintenant la seule qui soit valide aux yeux de Dieu, ainsi que cela avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. Un deuxième point, c'est cet autre aspect de la liberté chrétienne que j'ai évoqué tout à l'heure, et cet aspect de liberté qui caractérise notre manière d'être, et on va le voir, l'indépendance qu'on peut avoir vis-à-vis de toute pression humaine ou de toute autorité même humaine, comme Paul va nous le démontrer. La condition, c'est qu'on suive, c'est qu'on vive selon la vérité de l'Évangile. Le texte de ce matin va expliciter un peu plus ces points. Paul déclare déjà dans les versets 1 et 2 du chapitre 2, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Donc, pendant 14 ans ou plus, Paul a prêché aux Juifs et aux païens en toute indépendance, sans se soucier aucunement d'aller faire valider son évangile auprès des apôtres de Jérusalem. Au contraire, souvenez-vous que tout de suite après sa conversion, Paul est parti passer 3 ans en Arabie, c'est-à-dire très loin de tout centre d'influence chrétienne ou même judaïque, juive. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé faire confirmer son évangile à Jérusalem par les apôtres? Parce que Paul, justement, est certain d'avoir exactement le même évangile que les autres apôtres, puisque lui aussi le tient directement de Christ, et Christ ressuscité. Alors que les autres apôtres, c'était de Christ, mais du temps de son ministère terrestre. Alors pourquoi est-ce qu'il monte maintenant à Jérusalem et pas avant? Est-ce qu'il a été convoqué par les apôtres pour rendre des comptes sur son ministère ou sur son enseignement? Non. Est-ce qu'il a voulu rencontrer les apôtres parce qu'il avait des doutes sur certains points de son évangile et pour faire rectifier son évangile? Non, pas du tout. S'il monte à Jérusalem, ce n'est pas parce que les apôtres l'ont convoqué ou parce qu'il avait des doutes, c'est simplement, il le dit, verset 2, « ce fut d'après une révélation que j'y montais ». Paul est entièrement libre et indépendant dans tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il prêche. Il n'a de compte à rendre à aucun homme, mais seulement à Christ qui l'a envoyé. Et ceci, c'est vrai pour nous qui sommes chrétiens, dans la mesure où nous vivons selon la vérité de l'Évangile, nous pouvons nous considérer comme libres et indépendants. Nous ne dépendons de rien ni d'aucun homme, mais seulement de Dieu lui-même. Dans notre manière de faire ou nos initiatives. En d'autres termes, obéir à Christ, c'est la seule manière pour les hommes d'être vraiment libres. Parce que la seule alternative à ça, c'est de rester esclave des ténèbres et du péché. Un autre exemple donc de cette liberté, de cette libre initiative de Paul, Paul a pris la liberté d'amener Tite avec lui. Tite était grec, donc c'était un chrétien incirconcis. Paul savait très bien qu'il y avait là des judaïsants et que c'était un peu de la provocation. Mais cet aspect de provocation était voulu. Le but de Paul, c'était d'attirer l'attention de tous sur un problème chronique dans les églises. C'est le problème récurrent de l'auto-justification, c'est-à-dire du légalisme, c'est-à-dire de vouloir mériter le salut en faisant ceci ou cela. Dans le cas qui nous concerne, il s'agit de la circoncision. En amenant Tite, Paul voulait forcer la résolution du conflit et son but était qu'une position officielle de Jérusalem, des apôtres, soit adoptée. Et donc c'était pour lui la meilleure manière de résoudre le problème galate, des églises galates, qui d'ailleurs s'était étendue jusqu'à l'église d'Antioche, comme on le voit dans le livre des Actes. Donc Paul, en la personne de Tite, amène devant tous l'un des fruits les plus remarquables de son apostolat. Dieu a converti un païen, Tite, par le seul moyen de la foi. La preuve, c'est que Tite a aussi reçu le Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit, sans être circoncis ni avoir jamais eu la moindre pratique des rites et des cérémonies de l'Ancien Testament. Il a reçu le salut et la vie éternelle sans avoir accompli aucune œuvre exactement comme le larron repentant sur la croix de Christ. Il n'a fait aucune œuvre et pourtant il est sauvé. Donc Tite ici est une preuve vivante, une preuve en béton qui valait plus que tous les discours. Alors quelle est la réaction des apôtres à Jérusalem? Est-ce qu'ils sont choqués? Non. Est-ce qu'ils proposent de faire circoncire Tite? Absolument pas. Car il est clair que la conversion de Tite est le fruit du vrai évangile de la grâce. En tant que païen, on peut dire que Tite est même doublement libre. Libre d'un côté de l'esclavage des idoles et de l'autre libre de l'esclavage du légalisme. Et donc complètement libre vis-à-vis des faux frères qui sont là, dont Paul parle, et qui voudraient le faire circoncire. Donc, de même, les apôtres peuvent constater à travers Tite l'efficacité du ministère de Paul parmi les païens. Et ils reconnaissent aussi, les autres apôtres, sans problème, que Paul a bien été envoyé comme apôtre par Christ ressuscité, puisque son évangile est exactement le même que leur évangile à eux. On l'a déjà dit l'autre fois, mais ça vaut la peine d'être répété. C'est très encourageant pour notre foi de savoir que la vérité de l'évangile a reçu une double attestation par deux canaux indépendants. Les apôtres d'un côté et Paul de l'autre. Et le fait que ces deux évangiles, pardon, soient exactement les mêmes est un miracle remarquable. Et c'est aussi la preuve que c'est bien Christ lui-même qui en est la source. Et donc nous pouvons y placer notre foi sans aucune arrière-pensée. Un autre exemple de la liberté chrétienne de Paul, et de la nôtre aussi, au verset 10, il semblerait que les apôtres désirent ajouter quelque chose à la mission de Paul, comme si il manquait un petit quelque chose à son apostolat. Je cite, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. Mais là encore, Paul avait déjà depuis longtemps pris cette initiative spontanément, puisque le livre des Actes atteste que Paul s'est rendu plusieurs fois à Jérusalem pour amener des collectes en faveur des pauvres de Jérusalem. On se souvient qu'il y avait eu une grande famine annoncée par Agabus, le prophète, et que donc les Juifs de Jérusalem et de Judée souffraient de la sécheresse et de famine par rapport aux églises païennes qui avaient plus de prospérité. Donc, Paul a toujours été libre de ses initiatives, et ses initiatives ont toujours été les bonnes parce qu'il vivait en toute obéissance au Seigneur. C'est donc une autre des formes que peut prendre la liberté chrétienne, à part le fait de ne plus être assujetti aux lois mosaïques, rituelles et cérémonielles. Donc la seule condition de cette liberté, je le répète, c'est que nous marchions selon la vérité de l'Évangile. Une petite application pour nous, peut-être, c'est que l'une des contreparties de cette liberté dans nos initiatives, pour nous, chrétiens, c'est que nous devrions constamment cultiver, je parle pour moi aussi, cultiver une vision ou concevoir des initiatives sur le thème comment appliquer la vérité de l'Évangile au niveau de l'Église, au niveau de notre famille, au niveau de notre propre vie. Nous devrions donc nous efforcer de vraiment cultiver cette liberté et prier que Dieu nous y aide. Parce que même pour les chrétiens convertis, on a toujours tendance à retomber sous cet assujettissement à l'idée de mériter quelque chose de la part de Dieu, alors que le salut ne vient que par les mérites de Christ lui-même. Un autre point, on ne peut rien imposer à quiconque marche selon la vérité de l'Évangile. Il suffit de relire les versets 3 à 6, où il y a une accumulation d'expressions qui marquent donc cette liberté vis-à-vis de toute pression extérieure pour le chrétien. Je les relis, ces versets 3 à 6. « Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. » Et cela à cause des faux frères, etc. Je passe au verset 5. « Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. » Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été, etc., ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. C'est-à-dire les apôtres n'ont rien imposé à Paul. Si vous vivez selon les vérités de l'Évangile, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu, vous jouissez alors de la même liberté que Paul. Vous pourrez refuser toutes les contraintes et tous les jougs qui ne seront pas selon la vérité de l'Évangile. Mais comme on l'a vu, Paul et les autres apôtres, justement, ont le même Évangile. Donc, ils agissent forcément en harmonie les uns avec les autres. Et donc, il n'est pas question entre eux de contraintes ou même de hiérarchie. Non seulement aucune contrainte n'est exercée sur Paul par les apôtres, mais en plus, les apôtres proposent spontanément une collaboration à Paul. Verset 9. « Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. » Luther dit que c'est comme si les apôtres disaient à Paul, je cite, « Nous prêchons l'Évangile avec toi, Paul, et d'un accord unanime, nous sommes compagnons de doctrine, et en elle, nous sommes en communion. » Ce qui veut dire que nous avons la même doctrine, c'est le même Évangile, le même baptême, le même Christ, c'est la foi que nous prêchons avec toi. Nous ne pouvons donc rien t'apprendre ni te commander, puisqu'il y a entre nous un complet accord. Et en fait, le mot qui est utilisé pour la main d'association, c'est le mot le plus utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner la communion, koinonia. Et chose remarquable dans cette décision des apôtres, c'est que tous les arguments des faux docteurs se retournent contre eux. Il s'avère que leurs enseignements sont complètement à l'opposé de l'enseignement des apôtres de Jérusalem. Et leur théologie des œuvres est complètement renversée, et elle le sera officiellement après le premier concile de Jérusalem, dont on a l'exposé dans le livre des Actes au chapitre 15. Et en fait, une lettre officielle faisant état de ces décisions du concile sera peu de temps après dispatchée dans toute la région. Et on peut voir le dénouement de la crise galate dans Actes 16, 4, 5, où Paul visite de nouveau, au cours de sa seconde, son second voyage missionnaire, il visite de nouveau les églises de Galatie, donc très peu de temps après le concile de Jérusalem, et je cite Actes 16, 4 et 5, en passant par les villes, ils recommandèrent aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Et verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Donc apparemment ici, les faux docteurs ont complètement disparu de la scène. Et d'ailleurs, il n'est pas impossible que certains d'entre eux se soient convertis suite aux décisions officielles des apôtres à Jérusalem, décision du concile de Jérusalem, donc. Un autre point, c'est que marcher selon la vérité de l'Évangile nous rend libres et indépendants vis-à-vis de tout prestige ou toute autorité terrestre. Versets 6 et 9. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Et au verset 9, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, etc. Est-ce que Paul, ici, dans son indépendance et sa liberté chrétienne, est en train de faire peu de cas donc de ce que sont les apôtres, de leur comme s'ils manifestaient un dédain de leur autorité? Non, certainement pas. Son but, ce n'est pas cela quand il dit ça, ceux qui sont les plus considérés, cela ne m'importe pas. Son but, c'est de contrecarrer l'attitude des faux docteurs galates qui manifestent une vénération excessive pour le prestige des apôtres de Jérusalem. Et Paul, en parlant comme il parle, veut simplement dire, sans doute que les apôtres sont importants, mais là n'est pas la question. La question et le centre du débat, c'est la vérité de l'Évangile, à savoir le salut par grâce, par la grâce seule, et non l'apparence ou le prestige des gens qui prêchent l'Évangile. Parce que l'honneur du prédicateur, finalement, est lié à la fidélité du message qu'il prêche. Donc Paul est complètement libre et indépendant vis-à-vis de ces questions de prestige et d'autorité terrestre. On peut d'ailleurs en trouver un certain nombre d'exemples dans ses épîtres ou dans le livre des Actes. Je vous en donnerai un seul. C'est lorsque Paul comparaît devant le gouverneur Félix, donc personnage détenant une autorité et un prestige aussi, certainement. On lit ça dans Actes 26, on peut lire au verset 25 que comme Paul discourait sur la justice, la tempérance et sur le jugement à venir, Félix fut effrayé. Pourquoi? Parce qu'il était esclave de son péché, et on peut dire même de ses nombreux péchés, parce que la suite du texte nous dit que Félix, dans le désir de plaire aux Juifs, laissa Paul en prison. Je crois qu'il l'a laissé pendant 2 ans en prison, jusqu'à ce que Festus prenne la relève. Donc Félix est esclave, d'une certaine manière, de l'opinion populaire. C'est un de ses péchés. Un autre péché, il nous est dit qu'il espérait, il voulait revoir Paul de temps à autre parce qu'il espérait que Paul lui donnerait de l'argent. Donc Félix est aussi esclave de l'amour de l'argent, etc. Alors Paul est là enchaîné devant lui, Mais lequel de ces deux hommes est le plus esclave? Est-ce que c'est Paul ou est-ce que c'est Félix? Voilà un exemple donc. Alors, par contre, pour en revenir au texte, Paul sait aussi quand il faut tenir compte de l'autorité des apôtres. Par exemple, au verset 2, il dit qu'il exposa son évangile, je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Là, l'autorité apostolique est importante car l'enjeu, c'est que la vérité de l'évangile soit confirmée par ceux qui ont l'autorité de le faire. Parce que quel est le but ultime de la visite de Paul à Jérusalem? D'ailleurs, c'est peut-être même Paul qui a eu l'initiative de susciter le concile de Jérusalem. Le livre des Actes ne parle pas de ça, mais il ne peut pas parler de tout. Alors, quel est le but ultime de cette visite de Paul à Jérusalem? C'est que les églises galates prennent conscience qu'il y a un consensus au niveau de tous les apôtres de Jérusalem et lui-même, en ce qui concerne la vérité de l'Évangile. Il est clair que s'il y avait eu une divergence au départ entre Paul et les autres apôtres, il n'y aurait jamais eu ni d'Évangile ni d'Église. Le christianisme aurait été détruit dès le départ, c'est certain. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y aurait à l'heure actuelle que des sectes plus ou moins judaïsantes, puisque l'idée de salut par grâce aurait disparu. Donc nous sommes passés très près d'une catastrophe, mais Dieu, dans sa providence, veillait sur sa parole et sur son plan de salut pour nous. Spurgeon a dit, nous ne saurons jamais apprécier assez tout ce que nous devons à l'apôtre Paul. Nous qui sommes des gentils, c'est-à-dire des païens, nous lui devons plus qu'à n'importe quel autre humain. Considérez tous les combats qu'il a menés pour que nous puissions avoir accès au salut, alors que nos frères juifs nous auraient exclus parce que nous n'étions pas de la semence d'Abraham. Ceci nous mène à une courte conclusion, application. Pour beaucoup de dénominations aujourd'hui, beaucoup d'églises, l'unité doctrinale de l'église ne semble pas être un souci majeur. Alors que pour l'apôtre Paul, comme on vient de le voir, c'était quelque chose de capital. Paul n'a pas toléré que deux évangiles puissent cohabiter. Du moins en ce qui concerne la doctrine la plus cruciale, celle qui concerne notre salut, le salut par grâce. Comme ça a été le cas après le Concile de Jérusalem, nos églises devraient parler d'une même voix sur ce sujet et dire les mêmes choses pour être crédibles sur cette question des moyens de salut. L'unité doctrinale semble essentiel, donc en ce qui concerne le salut surtout. Sinon, les gens vont continuer à ne pas prendre le christianisme au sérieux, ou pire, s'imaginer qu'il existe plusieurs christianismes, plusieurs sortes de christianisme, donc plusieurs options de salut, plus ou moins d'œuvres, plus ou moins de grâces. Des choses comme ça. Et donc ils seront faussement rassurés en continuant à penser que, comme dit le vieux proverbe, tous les chemins mènent à Rome. C'est une grave erreur. Paul a passé sa vie et a donné sa vie pour annoncer aux hommes qu'il n'y a qu'un seul évangile, c'est-à-dire qu'un seul moyen de salut. Ce moyen, Christ lui-même, pendant son ministère terrestre, a aussi annoncé cette notion, hein, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Donc, le moyen, c'est donc de, pour être sauvé, c'est de placer notre foi en Christ, qui a reçu à notre place, sur la croix, le châtiment que méritait notre désobéissance à la loi, c'est-à-dire notre péché. Nous sommes sauvés par grâce, c'est-à-dire gratuitement, sans que nous ayons rien à faire. Nous sommes délivrés des exigences de la loi. Rien à faire, sinon recevoir la vérité qui vient de Dieu, la vérité du salut, recevoir Christ, qui est cette vérité qui sauve. La parole de Dieu donc nous affirme, ce sera la conclusion, c'est dans Colossiens 2,14 que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a éliminé en le clouant à la croix.